C'est les Apatrides Anonymes, édition du 4 novembre 2021, en direct tous les deux jeudis à 18h30 ou en balado sur choc.ca pour des enjeux autour de immigration, racisme, frontières, etc. Semaine de fou, encore une fois, Jean Chrétien qui dit des niaiseries sur les pensionnats autochtones, François Legault qui veut hausser les seuils d'immigration à 70 000 par année. Les chroniqueurs de l'Empire Poubelle vont faire la crise du bacon. New York, qui a un premier Mère Noire, pourquoi pas le souligner. C'est Simon qui est à l'animation, je suis en compagnie de Marie-Ève qui est à la console actuellement.
Et oui.
Salut Marie-Ève.
Bonsoir.
Bonsoir. Et de Mathieu qui est avec moi en studio.
Bonjour.
Au menu, dossier Mathieu Israël-Palestine avec toi un peu plus tard. Tu vas aussi nous amener en Italie pour des nouvelles toutes italiennes. plein d'enjeux d'immigration Québec-Canada avec Marie-Ève en deux blocs tout au long de l'émission. Moi, j'ai préparé quelques brèves. On aura aussi un agenda culturel et militant et évidemment de la bonne musique. On commence ça dans un tout petit instant. On est aux Apatrides sur Choc. On retrouve Mathieu dans un petit instant pour son bloc Israël-Palestine et moi-même avec une nouvelle sur le Yémen. Avant de se rendre en Israël et Palestine avec Mathieu dans quoi 2-3 minutes, quelques mots sur le Yémen. On apprenait il y a 2-3 semaines que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a refusé de prolonger le mandat des experts qui enquêtent sur les violations des droits de la personne au Yémen. Ce serait sous les pressions de l'Arabie saoudite que ces enquêtes-là arrivent maintenant à leur terme. On le sait, c'est l'Arabie saoudite qui orchestre l'occupation et le blocus du Yémen depuis le début avec la bénédiction du gouvernement local. Ce qui fait en sorte de créer ce que tout le monde s'entend pour qualifier de plus importante crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc la proposition qui a été rejetée, c'était de prolonger la mission d'observation et d'enquête sur les droits humains au Yémen pour les 2 prochaines années. Le groupe d'experts est sur place depuis le début de la crise en 2014. La proposition a été refusée avec le vote de plusieurs pays, dont la Chine, la Russie, le Gabon et le Sénégal, je ne sais pas pourquoi, entre autres, probablement qui ont des liens peut-être commerciaux avec l'Arabie saoudite. Donc, ces pays-là ont voté contre. On aura donc de plus en plus de difficultés à obtenir leur juste sur ce qui se passe au Yémen, puisque la situation est tellement difficile qu'il n'y a plus beaucoup de journalistes sur place, beaucoup d'organisations ont déjà retiré depuis longtemps leur personnel pour des raisons de sécurité. Et la présence de ce groupe d'experts pouvait en soi non seulement nous informer, mais aussi avoir un effet dissuasif sur les violations des droits humains. Là, ça pourrait être encore plus le « free for all ». Donc, échec grave de l'ONU avec cette proposition rejetée. On va quitter la péninsule arabique pour se rendre dans la même grande région, mais plus vers la Méditerranée, avec Mathieu qui nous a préparé une bonne mise à jour de ce qui se passe en Israël et en Palestine.
Ben oui, Simon, j'avais du choix, j'aurais pu parler de tellement de sujets. C'est une région où il se passe beaucoup de choses. Et il y a des liens avec l'international aussi, avec d'autres pays dans le monde et d'autres luttes dans le monde. Mais premièrement, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une semaine, Israël a annoncé la construction de 1355 nouveaux logements dans des colonies juives de Cisjordanie occupées. Une décision qui témoigne des difficultés d'arbitrage de la nouvelle coalition au pouvoir depuis quelques mois. Je vais en parler tantôt.
Ouais.
Ces logements doivent s'ajouter aux quelques 2000 annoncés en août par les autorités qui doivent obtenir le feu vert définitif du ministère de la Défense, rien de moins. Je cite le ministre de la Construction, « Le renforcement de la présence juive en Cisjordanie est essentiel dans notre vision sioniste. » C'est assez clair comme message. Le gouvernement, je rappelle, regroupe des formations de droite, de centre, de gauche et un parti arabe. Donc, imaginez les arbitrages dans ces discussions.
Ça ne doit pas être facile. Hein?
Ça doit être surtout assez affreux. Le premier ministre palestinien Mohamed Chtaye a rapidement dénoncé ce projet. On rappelle qu'il y a au moins 675 000 Israéliens qui habitent aujourd'hui dans des colonies à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée, où vivent au total plus de 3 millions de Palestiniens, et on sait que ces colonies sont contraires au droit international.
Tu sais, j'avais pas le chiffre, 675 000 colons israéliens dans les territoires illégaux, là, finalement.
Exactement, ça s'augmente à chaque année, évidemment. L'ONG israélienne anti-colonisation, qui s'appelle La Paix Maintenant, s'est aussi opposée à cette annonce, affirmant que le nouveau gouvernement n'était pas un gouvernement de changement du tout par rapport à l'ancien, celui de Netanyahou. pour compenser, entre guillemets, peu après l'annonce des nouvelles constructions, l'État hébreu a annoncé l'octroi de 9000 nouveaux permis de travail en Israël pour des Palestiniens. Bon. Les États-Unis ont pour la première fois haussé clairement le ton face à Israël en critiquant fermement cette annonce de ces nouveaux logements, fermement entre guillemets.
Donc, ça me semble que le ton avait déjà monté des fois sans nécessairement qu'il y ait de...
Pas pendant le mandat de Trump, par exemple.
Justement, non, ça c'est sûr.
Avec Obama, c'est arrivé, t'as raison. On rappelle que Mike Pompeo avait même modifié en 2019 la doctrine américaine, affirmant que Washington ne jugeait plus les colonies comme contraires au droit international. Il était d'ailleurs devenu en novembre dernier, il y a un an, le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre dans une colonie en Cisjordanie occupée, ce qui n'avait jamais été fait par d'autres secrétaires d'État. Le gouvernement israélien a aussi annoncé récemment avoir placé sur sa liste des organisations terroristes 6 ONG palestiniennes liées, selon lui, au Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, qui est une organisation marxiste, là, et non pas, c'est pas le Hamas du tout. Une décision qui a été critiquée par l'ONU et un paquet d'organisations de défense des droits de la personne. Parmi les 6 ONG figurent les organisations de défense des droits de la personne Al-Haq et Adamir, qui défendent les prisonniers politiques palestiniens en Israël.
Okay.
Le service israélien de renseignement intérieur avait accusé en mai des ONG d'avoir détourné des fonds de plusieurs pays européens. Des dizaines de millions de dollars auraient été transférés sans qu'aucun des gouvernements ne sache où allait l'argent. Cet argent a permis au FPLP de financer les familles des prisonniers et des auteurs d'attentats, de payer des salaires à ses membres, de renforcer ses activités terroristes et de diffuser son idéologie, selon le ministère de la Défense, évidemment. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens s'est dit alarmé par la décision israélienne. Il a accusé Israël de mener une longue campagne stigmatisant ces organisations et d'autres ONG et restreignant leur capacité à mener leurs tâches cruciales, parce qu'on sait que les ONG en Palestine, c'est un peu ça qui fait vivre les gens, puis qui aide beaucoup les gens, le gouvernement.
L'argent passe beaucoup par là aussi.
Oui, puis il y a tellement pas de services publics, là, tout ça, fait que c'est un peu ça, là. Amnesty et Human Rights Watch ont également dénoncé une décision épouvantable, injuste et alarmante, et même l'ONG israélienne B'Tselem a jugé la décision des autorités israéliennes digne des régimes totalitaires. Donc, c'est assez clair au niveau de cette décision. Ça a eu un certain écho aussi dans le monde au niveau des luttes pour appuyer les Palestiniens. J'ai lu un très bon article, je vais juste le suggérer parce que ça donne un peu une autre idée de ce qui se passe en Cisjordanie.
On prend des notes.
L'article s'appelle « L'autorité palestinienne est en train de perdre le contrôle de la Cisjordanie ». C'est le Middle East Eye, comme œil, de la fin août, 31 août 2021. Un article vraiment très intéressant. Je vous donne deux, trois teasers.
Okay.
Des mois de répression croissante et d'arrestation amènent même les partisans de l'autorité palestinienne à s'interroger sur son effondrement prochain. Parce qu'on parle vraiment d'une répression, d'un renforcement du pouvoir corrompu là, de l'autorité palestinienne avec la fin de régime de Mahmoud Abbas qui est là depuis que Yasser Arafat est mort et il y a une lutte intestine pour sa succession au Fatah et là il y a vraiment une répression contre l'ensemble, pas juste contre les militants du Hamas, là, contre les artistes, contre les militants de différents groupes, autres groupes politiques, contre les ONG justement. Ils n'interviennent plus pour défendre les Palestiniens quand Israël intervient. T'sais, il y a vraiment une espèce de laisser-aller puis une dure.
Ben, un manque de moyens aussi peut-être. Là.
Manque de moyens, mais vraiment aussi une volonté de dénoncer tous ceux qui critiquent l'autorité palestinienne, ouais. Tous ceux qui veulent. Les élections du mois de mai ont été reportées sine die, donc récemment. En mai, quand il y a eu les bombardements contre Gaza, l'autorité palestinienne n'a pas du tout défendu les Palestiniens de Jérusalem-Est, entre autres, d'où ça venait un peu le conflit. Donc il y a vraiment il y a une guerre intestine, mais il y a vraiment un climat de répression qui fait que beaucoup disent que malgré que les pays de la communauté internationale comme les États-Unis et l'Europe veulent que l'autorité reste parce que ça fait un tampon entre Israël puis le Hamas, mais dans les faits, c'est vraiment en train de s'effondrer complètement. Donc, il y a vraiment un danger, entre guillemets, mais aussi une façon de faire de cette autorité-là qui est vraiment rendue antidémocratique, qui est très, très répressive et corrompue en plus. Donc
Israël est en train de gagner cette bataille.
Finalement. Ben, ils l'ont affaibli beaucoup, t'as raison là-dessus, là, mais tu sais, mais en même temps, ils sont vraiment dans une game de pouvoir là, incroyable. Sinon, ben le Pegasus, ça te rappelle quelque chose?
Rafraîchis-moi donc la mémoire.
Ben, je vais te lire ça. C'est un éditorial du Monde, j'ai trouvé vraiment intéressant. Les victimes du logiciel espion Pegasus ne doivent pas seulement pointer du doigt les pays qui les ont visés. Leurs doléances doivent aussi s'adresser aux autorités israéliennes qui ont validé les contrats passés par l'entreprise NSO qui a créé le logiciel. Les services de renseignement d'une dizaine de pays comme le Maroc, le Mexique, l'Inde, les Émirats arabes unis, la Hongrie ou l'Arabie saoudite ont eu les moyens de s'introduire dans les téléphones intelligent de milliers de journalistes, défenseurs des droits de la personne.
Oui, ça me revient, là.
Opposants politiques, dirigeants de pays étrangers. C'était au début, fin de l'été à peu près. Mais Pegasus n'aurait pas dû devenir le kit d'espionnage favori des autocrates et des populistes sans la bénédiction de l'État d'Israël. Donc, l'ex-premier ministre Netanyahou a même encouragé ces transactions et les a utilisées comme un moyen de se rapprocher des pays n'entretenant pas de relations officielles avec Israël. Le nouveau gouvernement israélien, dont je parlais tantôt, dirigé par l'ultranationaliste Naftali Bennett, ne semble guère pressé de rompre avec ce cynisme. Signe éloquent, le motif d'indignation des dernières semaines en Israël n'est pas l'affaire NSO du logiciel espion, mais l'affaire Ben & Jerry's.
La crème glacée de Burlington, Vermont?
Exactement, Simon. La décision de cette fameuse marque de crème glacée américaine de cesser de vendre ses produits dans les colonies juives de Cisjordanie a soulevé une tempête politico-médiatique. Okay. Tout ça grâce au mouvement BDS, évidemment. Mais NSO, la compagnie qui a fait le logiciel Pegasus, est l'un des fleurons d'un secteur qui représente quasiment la moitié des exportations du pays et emploie près de 10% de sa population. C'est le secteur sécuritaire en Israël.
Okay, okay.
50% c'est... des exportations, 10% des travailleurs. Fierté nationale, organiquement liée à l'armée, au service de sécurité. Le secteur du high-tech, qui appelle, est perçu comme le dépositaire de l'esprit pionnier qui a présidé à la création du pays. Ah, c'est-tu pas merveilleux, ça?
Ben oui, on est dans la fin de la Deuxième Guerre. Puis, ouais, ouais, c'est joli. Je suis quand même étonné de mettre la crème glacée sur le même pied d'égalité en termes de...
Ben, de... c'est quand les médias s'en mêlent, puis c'est bon, tu sais.
On crée un phénomène. Là,
fait qu'il y a vraiment un problème avec l'industrie de la cybersurveillance israélienne qui est à l'interne contre les Palestiniens, mais évidemment à l'international. Sinon, ben, j'ai quelques temps encore
vas-y,
un peu.
Vas-y.
Oui, il n'y a pas de problème. Un rapport à lire qui nous apprend rien de neuf, mais qui confirme beaucoup de choses. Le rapport s'appelle « Attaque, diffamation, décryptage des stratégies de délégitimation de la défense des Palestiniens ». Donc, selon un rapport publié le 14 octobre par la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, les associations et personnes qui dénoncent les violations des droits des Palestiniens font l'objet d'une recrudescence d'attaques visant à les délégitimer, hein, ce qu'on a déjà parlé à l'émission.
On parle de réseaux sociaux, on parle de...
Je vais t'expliquer, okay. Tout ça, ouais, c'est ça, c'est entre autres contre le mouvement BDS, évidemment. Afin d'attaquer les organisations de la société civile qui soutiennent les Palestiniens, les acteurs de la délégitimation utilisent des stratégies variées. Atteinte à la réputation via des accusations d'antisémitisme, de soutien au terrorisme et de troubles à l'ordre public, culpabilité par association, poursuite judiciaire, annulation et modification d'événements académiques et culturels, interpellation d'acteurs publics tiers comme du personnel politique ou des bailleurs de fonds. Le rapport illustre par des cas concrets la recrudescence des tentatives de délégitimation depuis une dizaine d'années en Europe, en France en particulier, et aussi aux États-Unis. On apprend d'ailleurs que le ministère israélien des Affaires stratégiques, ça existe, a publié plusieurs rapports visant à diffamer les organisations de la société civile partout dans le monde. Ces rapports utilisent de nombreuses informations tronquées et peu étayées, carrément fausses, présentées comme des recherches factuelles approfondies. Je cite François Leroux, un des porte-parole de cette plateforme. Voilà. Depuis 10 ans, les obstacles se sont multipliés en France pour tous ceux qui souhaitent prendre position contre les violations du droit international commises par Israël. Le but est clair, stigmatiser, faire taire et dissuader d'autres personnes ou associations qui voudraient se joindre à la lutte contre l'injustice contre les Palestiniens. Donc ça, on en a parlé souvent.
Appuyé par la fameuse définition de l'antisémitisme, j'imagine.
Exactement.
Je sais pas si la France l'avait adoptée officiellement,
oui,
en tant qu'État.
Aussi. Oui. Mais il y a toutes sortes de tactiques qui existent depuis des années, puis on fait toutes sortes d'amalgames là, pour dire que les gens sont contre les Juifs ou contre sont antisémites, mais bon, fait que voilà. Il me reste une minute.
Une dernière petite nouvelle peut-être.
Oui, ou... parfait. Notre ami, le fameux Hassan Diab, ça te rappelle quelque chose?
Bien sûr.
Bon, la Coalition pour la surveillance électronique des libertés civiles a publié une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice fédérale, signée par 118 juristes du Canada. Dans ce document, les signataires appellent le fédéral à prendre des mesures immédiates pour protéger les droits de Hassan Diab, un citoyen canadien qui continue de faire face à un processus kafkaïen dans le système judiciaire français, et ce depuis 13 ans. Donc, les signataires demandent que le ministre de la Justice s'engage à refuser toute demande d'extradition de Hassan Diab vers la France, que le ministre des Affaires étrangères exige que la France mette un terme immédiatement à cette injustice, et que Justin Trudeau, suspende le traité d'extradition de le Canada et la France. Ça, c'est pas gagné. Hassan Diab avait été extradé en France il y a plusieurs années sur la base de preuves sur la base de manque de preuves et prêtant à confusion, où il a passé plus de 3 ans en prison sans accusation ni procès. Il a finalement été libéré, il a pu rentrer au Canada en 2018 après que les juges là-bas aient trouvé que c'était pas lui qui était responsable du fameux attentat contre une synagogue de la rue Copernic à Paris en 1980, tu te rappelles, hein? Donc récemment, la Cour de cassation en France a confirmé la décision de la Cour d'appel ordonnant la tenue d'un autre procès contre Hassan Diab. Donc il est menacé d'être re-extradé vers la France encore une fois.
Donc il est au Canada actuellement?
Oui, il revenait en 2018 parce qu'il n'y a pas eu de procès parce qu'il y avait les preuves était tombé. Il y avait eu des pressions aussi internationales. Et donc, c'est un Canadien libanais, bon, Canadien d'origine libanaise, qui est prof à l'Université d'Ottawa. Puis là, il serait menacé d'un autre procès. Fait que la gang de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles encourage les gens à envoyer des lettres au fédéral. Allez sur le site iclmg.ca. C'est un sujet de Hassan Diab.
Pour plus s'informer sur le sujet.
Et soutenir la lutte.
Merci Mathieu.
Merci à toi.
Je pense à chaque émission, on pourrait parler d'Israël-Palestine. Il y a tellement de nouvelles. Donc nous, on s'en va en musique. On va retrouver plus tard Marie-Ève pour des dossiers, des enjeux immigration au Québec-Canada. Donc on s'en va tout de suite aux Apatrides. Écoutez Tamer Naffar, The Beat Never Goes Off.
There was a tank attack. There was a gas attack. Never a heart attack. Because the beat never goes off. The beat never goes. The streets never goes. Middle East never goes. The beat never goes off. Black Panther, ala little Hamza, little Biggie, little Pac, Atukan Fatwa, Malcolm in the middle, East, Gaza.
Let the truth come, come, flow pure, thumbs up. I have a clean Dr. King, Abu Tanglan. Show your lyrics to bang bang, spitting three lingos, my lyrics to gang bang.
A1,
mic check,
1-1,
name 2.
Fight the occupation, coming straight from the curfew.
Smack you like snares do.
Sick flight,
birds do.
Stay true.
True.
No, we don't talk blank, we don't talk blank. We bring tires in it's harder than your gold drain. You wanna talk blank, cause I can talk blank. Like Tina Fey, we carry 30 rocks more than both blank.
There was a tank attack. There was a gas attack. Never a heart attack. Because the beat never goes off.
The beat never, never goes. The streets never, never goes. Middle East never, never goes.
Maybe I'm an African, let me rephrase it. I wasn't taken to a land, but my land was taken. Maybe native, let me erase it. I'm sacred to dance naked, asking where the rain is.
Maybe, maybe, maybe I am nameless, faceless, even better, raceless. Maybe, maybe, maybe fish are ready. Ain't nothing but a steep thing, baby. So I get down, get down, get down with it.
And for Palestinian, we're pronouncing it.
So I get down, get down, get down with it. From the tunnels of Gaza, what's more on the ground than this?
Thank you.
toujours aux Apatrides Anonymes, édition du 4 novembre 2021 sur Choc. On écoutait The Beat Never Goes Off du chanteur Tamer Naffar, qui est rappeur, acteur, scénariste, militant palestinien de citoyenneté israélienne. La pièce The Beat Never Goes Off, c'est sur l'album du même nom, sorti un peu plus tôt cette année. Et c'est une collaboration avec MC Abdul et Noël Carman. Avant d'aller rejoindre Marie-Ève, qui a switché de la console au micro au studio principal avec moi. Tu nous as préparé un bon gros dossier en deux parties sur les enjeux les plus récents en immigration Québec et Canada. Donc, peut-être une petite citation raciste pour te starter.
Yes!
OK, on y va. En vedette aujourd'hui, Doug Ford, qui est quand même un peu moins pire que son regretté frère, mais tu sais, la barre n'était pas très haute. Il en a sorti une, pas pire, il y a environ 2 semaines. En gros, il disait, ben, venez immigrer en Ontario si vous voulez travailler fort, mais, et c'est là qu'il se met les deux pieds dans la bouche. Si vous pensez que vous venez pour toucher une allocation et rester assis à la maison, ça n'arrivera pas. Donc, un petit peu paternaliste et rempli de préjugés, ce Doug, il sous-entend que les personnes immigrantes seraient des paresseux ou des profiteurs. Et à ce jour, il refuse toujours de s'excuser. Donc, voilà qui met la table pour toi, Marie-Ève, et plein de nouvelles provinciales et nationales.
Ça fait du bien quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une citation raciste.
Qui n'est pas québécoise.
Oui, c'est ça. Effectivement.
Donc, tu nous offres un premier segment sur, l'immigration au Québec,
ouais,
pour le premier segment, puis peut-être Canada
plus national. Canada après, oui, scène fédérale plus tard dans mon deuxième bloc. Donc, parmi les actualités québécoises en lien avec l'immigration qui ont retenu notre attention récemment, il y a d'abord l'augmentation des seuils d'immigration annoncés par le gouvernement Legault.
Surprise!
Ouais, puis vous allez voir que c'est une augmentation mitigée. Comme d'autres gouvernements l'ont fait ailleurs, c'est avant tout pour combler, on s'en doute, là, la pénurie de main-d'œuvre,
ben ouais,
qui a en partie été causée par la crise sanitaire, là, que le premier ministre a décidé d'ouvrir les vannes, entre guillemets, mais des petites vannes.
Ça a dû faire de la peine.
Donc, le gouvernement vise l'octroi de 70 000 nouvelles résidences temporaires en 2022. Sauf que quand on regarde les chiffres de plus près, on constate assez vite que l'augmentation, ben, on n'en est pas réellement une.
Ah bon?
Du moins en comparaison de l'ancien gouvernement libéral. Bon, fait que l'année prochaine, il y aura entre 49 000 et 52 500 personnes immigrantes permanentes qui vont être admises. Les 18 000 manquantes pour arriver à 70 000 sont un rééquilibrage, tu sais, par rapport pour celles qui n'ont pas pu être admises en 2020 à cause de la pandémie. Puis si ces objectifs-là sont effectivement atteints, ben là, le nombre total, si on prend là, pour 2 ans, le nombre total de résidents, résidentes permanentes pour 2020-2022 connaîtra pas une réelle augmentation. Parce que, pour rappel, bon, Québec sélectionne les immigrantes économiques en délivrant un certificat de sélection. Mmh. Puis après ça, mais c'est Ottawa qui s'occupe de faire des vérifications médicales et de sécurité, puis de donner la résidence permanente en fonction des seuils fixés par le Québec.
Qui, en général, la donne quand la personne est sélectionnée par le Québec. Là.
C'est en général. Sauf que, là, depuis le début de la pandémie, on vous en a déjà parlé aussi, Québec explique sa contente révision à la baisse de ses objectifs par les retards d'Ottawa dans la délivrance des résidences permanentes. Donc, en 2020, il y a à peine plus de 25 000 résidents permanents qui ont été admis au Québec, alors que le gouvernement Legault visait 44 000. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, que si on prend les objectifs d'avant, puis ce qui a été réel, puis on regarde ça pour 2020-2022, au final, il n'y a pas vraiment une augmentation. Puis, l'année passée, il y avait eu un autre rééquilibrage de 7 000 personnes qui avait été annoncé, mais selon la ministre québécoise de l'immigration, Nadine Giraud, ça non plus, ça devait là viser à combler le déficit aussi en 2020, mais ça sera pas atteint par le gouvernement fédéral à cause des retards.
Ouais. Puis si on prend, c'était quoi, la dernière année de Couillard, il était rendu à 55, 56 000.
À peu près,
puis
ouais,
il y aurait eu une augmentation de 2-3 000 par année, donc on serait rendu à 64 000.
C'est ça, c'est fait qu'on atteint comme... C'est ça, c'est fait que c'est... c'est ça, quand on compare, on voit que c'est pas une vraie augmentation. Puis de ces 70 000 personnes-là, celles qui vont être admises au PEC, le programme Expérience Québec, qui s'adresse aux étudiants et étudiantes étrangères, pas aux travailleuses, travailleurs temporaires, les personnes qui vont être sélectionnées, donc, vont passer de 500 à 600 places pour la prochaine année. Mais cette augmentation-là concerne seulement les préposés aux bénéficiaires, les travailleurs, travailleuses de la transformation alimentaire et ceux et celles des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Donc, c'est des augmentations, mais avec plusieurs « mais », tu sais. Là où il va y avoir une vraie augmentation, c'est pour les réfugiés parrainés. Nadine Giraud a annoncé que les organismes et groupes de 2 à 5 personnes qui souhaitent parrainer des réfugiés vont pouvoir déposer dès janvier un maximum de 825 demandes. Par le passé, c'était 750 par année. Ces demandes-là peuvent concerner plusieurs personnes, par exemple une famille. Autre changement aussi, c'est que le traitement de ces demandes-là ne se fera plus par ordre d'arrivée comme c'était le cas, mais par tirage au sort et ça va être supervisé par un vérificateur externe. Puis chaque organisme ou groupe de personnes va pouvoir déposer entre 10 et 30 demandes au maximum selon son expérience et sa localisation. Donc concrètement, la répartition des demandes, là, les 825, c'est les organismes de Montréal, 200 demandes, les organismes hors Montréal, 200 demandes, puis les groupes de 2 à 5 personnes qui veulent parrainer, c'est 425 demandes. Mais je vous avoue que cette augmentation-là m'a aussi un peu surprise, étant donné les cas de fraude qui ont fait les manchettes dernièrement.
Ouais, qui étaient un peu douteux, pas toujours nécessairement documentés aussi.
Quoi ça, les fraudes?
Les cas de fraude, il y avait d'allégations de cas de fraude.
Oui, mais il y a eu une enquête, donc c'est parce que moi je m'attendais à ce que Legault s'en prenne plus aux demandeurs d'asile plutôt qu'aux fraudeurs, mais non, donc dans la foulée de ces scandales-là, il y a des enquêtes qui ont été menées, et donc les enquêtes ont démontré que 18 des 50 organismes qui ont parrainé des réfugiés au Québec en 2020 vont être suspendus. Donc, les allégations se sont avérées. Ce sont plus des 2/3 de leurs requêtes qui ont été rejetées, soit un total de 164. Le type de fraude dont on parle, là, c'est, par exemple, un montant d'argent demandé par des organismes aux réfugiés ou à leurs familles pour postuler à ce programme-là, alors que exiger de l'argent pour mener à bien ce type de demande-là est vraiment strictement interdit.
De faire le commerce du parrainage, là, finalement.
Oui, c'est ça. Et les organismes aussi doivent impérativement être à but non lucratif. Il y a aussi des dons, celle-là est pas pire, des dons destinés aux réfugiés qui ont été déposés dans des fonds de placement par des organismes qui ont récupéré les intérêts. OK? Mmh. Puis, alors que pour obtenir l'autorisation du gouvernement de parrainer des réfugiés, les organismes doivent réunir, grâce à des dons, plusieurs milliers d'heures pour subvenir, en fait, aux besoins de ces personnes-là durant un an. Il y a aussi des fausses déclarations qui ont également été répertoriées, des manquements dans l'accueil des réfugiés qui recevaient pas les aides financières et matérielles promises. Fait que, en gros, c'était pas chic-chic.
Là. Mais en même temps, c'est pas des vols, là, tu sais, de grand chemin avec... dans le sens que c'est pas, tu sais, du détournement de fonds, c'est plus comme essayer de profiter un peu pour payer, parce que ces organismes-là, souvent, ont peu d'argent pour payer ces groupes communautaires, là. Ils ont peu d'argent pour payer leurs trucs, fait que des fois, ils prennent des moyens qui sont pas officiellement permis, comme tu dis, mais c'est pas de la grande fraude, là.
Non, c'est pas de la grande fraude, sauf que en bout de ligne, c'est qui écope? Ce sont les personnes qui sont parrainées, c'est toujours. Elles
ça,
qui...
c'est les candidats c'est à l'immigration.
C'est ça, le problème, là, tu sais, c'est pas des masses. Moi, j'ai pas vu, là, c'était quoi les sommes impliquées,
non, parce
là.
Que quand c'était sorti, la CAQ disait, c'est un scandale, il y a plein de fraudes, c'est un milieu corrompu, tu sais, tu comprends, c'est ça?
Ouais, non, c'est ça.
Ouais.
Mais, bref...
Puis on parlait beaucoup de parrainage par des organisations,
des organismes officiels, mettons, là, oui.
Ouais, c'est ça, mais pour ce qui en est du parrainage familial, est-ce que c'est toujours les mêmes seuils ou c'est toujours...
Ça, c'est la réunification familiale, c'est un autre programme.
Chose. Là,
c'est ça, donc
tu
n'as pas parlé de ça du tout, là.
Non.
Non, OK. Non. C'est juste pour nous situer, là, pour être certain.
Dans les chiffres qui ont été annoncés, j'ai rien vu par rapport au programme de réunification familiale.
Parce que ça avait fait aussi l'objet de baisse dans les seuils, là, au niveau de Québec,
ouais.
Donc, je serais quand même curieux, c'est quand même aussi important, selon moi, que, les, que le parrainage de, d'organismes. Mais ce sera à voir, peut-être. Là.
Mais le parrainage a un petit peu augmenté au niveau des organismes parce qu'il y en a eu moins l'année passée, hein, Marie-Ève, aussi, à cause de la pandémie aussi. Puis à cause de l'histoire
c'est
de France.
C'est pas fou, là, comme, de, comme augmentation.
C'est moins que
1000,
hein, en tout.
Tu sais, 825 demandes contre 750.
Non, c'est ça.
Mais c'est... là, ça, c'est des demandes, mais une même demande peut concerner plusieurs personnes parce que ça peut être plusieurs membres d'une même famille qu'on décide de parrainer, tu sais. Fait que c'est ça.
D'accord. Est-ce que ça complète ton premier bloc les enjeux? T'sais? Donc ça, c'était Québec. On s'en va plus vers le national,
fédéral.
Un peu plus tard dans quoi, une 15-20 minutes.
Prochain, ouais.
C'est ça. Donc, ben, on a besoin d'un petit pont musical parce que là, on fait encore un switch. Mathieu va s'en venir en studio. Marie-Ève retourne à la console.
La joie de la chaise musicale.
Toujours aux apatrides, anonymes sur choc.ca. Simon, toujours au micro. On retrouve Marie-Ève un peu plus tard, comme on disait, pour la deuxième partie de son dossier d'actualité. Ça va être national, fédéral sur l'immigration. Je suis maintenant en compagnie de Mathieu, qui va nous entretenir de l'Italie dans 2-3 minutes. Comme d'habitude, j'en profite pour voler un peu de temps. Une nouvelle européenne assez importante qu'on tenait à souligner. L'Union européenne ne financera plus les barbelés et les murs érigés à ses frontières. C'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui en a fait l'annonce parce que récemment, la Pologne et la Lituanie avaient envoyé à l'Union européenne des factures, des clôtures et dispositifs qui sont en train de construire à leurs frontières. La Pologne, sa petite facture envoyée à Bruxelles, c'était quand même 353 millions d'euros. Et la réponse de l'Europe est vraiment catégorique, on ne paye pas, point. Il y a plein de pays membres de l'Union européenne, une coalition de 12 ministres de l'Intérieur qui sont pas d'accord avec la décision de Bruxelles et affirment que ben, c'est pas juste aux contribuables des pays frontaliers de l'Union européenne à payer pour ces murs-là, mais à tout le monde, puisque bon, les phénomènes migratoires affectent l'Union européenne au complet. Donc, on peut prévoir à court terme un genre de bras de fer sur la question des murs entre Bruxelles et les autres capitales. On vous tient au courant.
Un autre bras de fer en Europe sur la question de l'immigration.
Ben, je pense que c'est la...
C'est la
C'est l'Europe, là, c'est ça, ils aiment bien...
Les 27 s'amusent.
Mais là, les 12 ministres, ça, je vais vous faire une liste, c'est vraiment flagrant, c'est un peu le who's who de la droite et de l'extrême droite européenne. Uh-huh. Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce, Hongrie, Lituanie, qui est officiellement social-démocrate, sinon, ben Lettonie, Pologne, République tchèque, Slovaquie. Donc, et même avec l'appui tacite de l'Allemagne. Donc, je ne sais pas si entre-temps, ben, la réponse de Bruxelles va refroidir certains États dans leur espèce de folie de construction de murs de plus en plus hauts et longs, de plus en plus technologiques et très, très coûteux. On verra.
L'Europe ouverte.
Mathieu, un des pays...
Le mirage, oui.
Ben, l'Europe ouverte près du Vatican.
Le grand espace Schengen.
C'est ça. Ben, je sais pas pourquoi le Vatican... en tout cas, on s'en va en Italie, Mathieu.
Oui, oui, le Vatican est membre de l'Union européenne. C'est le 28e, je savais pas.
C'est vrai, il est pas membre.
Ben non, ben non, ben non. La Suisse non plus, ben non.
Dans la Suisse, on le sait, mais le Vatican, Monaco, Liechtenstein, tout ça, effectivement.
Non, c'est mystérieux.
On sait pas pourquoi.
Italie sont membres de l'Union européenne, Simon, écoute.
Et tu nous en parles. parle, ça tombe bien.
Ben écoute, je continue avec ta belle brochette de réactionnaires et de fascistes.
Oui,
en Italie, ça brasse pas mal. Il y a à peu près 3 semaines, il y a 12 personnes, dont plusieurs dirigeants du mouvement d'extrême droite Forza Nuova, qui ont été arrêtés au lendemain d'affrontements qui ont opposé adversaires du pass sanitaire aux forces de l'ordre. Des milliers de manifestants ont entre autres saccagé des bureaux de la Confédération générale italienne du travail, qui est le plus gros syndicat en Italie. Et on rappelle pourquoi ils ont fait ça. On rappelle que le dispositif de passe sanitaire sur lequel les syndicats et les organisations patronales se sont mis d'accord prévoit la suspension du contrat de travail de tous les salariés qui ne produiront pas de preuve de vaccination. En Italie, c'est tout le monde, là, c'est pas juste en santé. Fait que les fascistes ont
visé tous les milieux de travail.
Tous les milieux de travail au complet, public, privé, au complet.
Même mini-entreprise, le petit café du coin.
Exactement. Okay. Oui, c'est vraiment extrême, là. Mais bon, c'est pas une raison pour attaquer le syndicat, c'est un move des fascistes. Et en réponse, ben la semaine d'après, il y a eu une grande manifestation en Rome, 200 000 personnes au moins qui ont manifesté contre l'extrême droite et contre le FN, hein? Forza Nuova, FN, ça peut penser à un autre...
Il y a comme un acronyme apparenté, en
oui,
tout cas.
C'est ça. Puis, donc, ben voilà, c'est une grosse manifestation qui a vraiment fait beaucoup de bruit en Italie. Plusieurs partis ont demandé l'interdiction de Forza Nuova, parce que c'est un parti, c'est un mouvement d'extrême droite qui ont des élus, c'est assez comme, c'est pas clair tout à fait, et il y a eu une pétition, donc il y a eu 100 000 signatures pour interdire ce mouvement d'extrême droite, Force Nouvelle, Forza Nueva, donc on verra la suite. Et parlant de fascisme, ben les élections municipales à Rome, Rachele Mussolini, petite fille de certain Benito,
eh bien.
Et conseillère municipale à Rome, a réalisé le score le plus élevé de tous les candidats en liste aux élections municipales à Rome, donc c'est son deuxième mandat. Et les membres du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, ça c'est une autre belle gang aussi.
Le FI.
FDI qui mettent dans mon acronyme. Et donc, elle a cependant insisté sur le fait que son nom de famille n'avait rien à voir avec sa popularité. Elle a même ajouté « J'ai beaucoup d'amis de gauche. »
Je sais pas si c'est des amis imaginaires comme...
comme Sacal.
Oui, c'est ça, avec son ami imaginaire.
Il y avait un ami, ouais, c'est ça, exactement.
Des anciennes collègues de classe, peut-être. Donc, ben voilà, petite nouvelle sur une autre... ben, Fratelli d'Italia, c'est des fascistes aussi, c'est l'extrême droite. Sinon, ben, autre nouvelle, pas plus sérieuse, mais plus surprenante un peu. La condamnation de l'ancien maire de Riace, qui est une petite ville du sud de l'Italie, en Calabre.
Okay.
Domenico Lucano a été condamné à plus de 13 ans de prison pour incitation à l'immigration clandestine, et ça a provoqué une onde de choc en Italie et à l'extérieur.
Qu'est-ce qu'il avait fait?
Voilà, l'ancien édile est une figure emblématique de l'accueil et de l'intégration des migrants, une politique qui lui a valu d'être nommé 3e meilleur maire au monde en 2010 par ses pairs, et même dans les 100 personnalités les plus influentes selon le magazine Fortune. Pas parce qu'il est riche, là, c'est un village de 1800 habitants.
Okay.
Mais c'est une sentence très lourde, généralement réservée aux membres de la mafia sicilienne ou aux grands criminels. Et qu'est-ce qu'il a fait, Simon? Il est accusé notamment d'avoir organisé des mariages de convenance pour aider des femmes déboutées du droit d'asile à rester en Italie. Il lui était aussi reproché de s'être passé d'appel d'offres pour attribuer la gestion des ordures de son village à des coopératives liées aux migrants. Hein? C'est...
Donc, il voulait donner de l'emploi, finalement, favoriser l'intégration.
Hein? Exact. C'est ce que je disais. C'est un champion de l'intégration.
Il n'était pas dans le FI ou le FN.
Non, pas du tout. Puis le juge qui l'a condamné, sûrement, par exemple. Donc, Lucano accueillait des migrants dans son village dépeuplé afin de relancer le développement et les emplois. Il développait la formation professionnelle des réfugiés dans le but de relancer des traditions artisanales locales laissées à l'abandon, des ateliers de broderie, de céramique où se mêlaient salariés italiens et réfugiés. On vu le jour pendant les 12 ans qu'il a été maire. Et des postes créés dans l'agriculture, le service d'entretien. Fait qu'il a été puni pour ça, finalement. Puis parmi les réactions, les nombreuses réactions qu'il y a eu en Italie, en Europe, Marie-Ève, l'ancienne capitaine du Sea-Watch, Carola Racchetti, également poursuivie en Italie, hein, pour être entrée de force avec des migrants dans un port pour les faire débarquer en Italie, a de son côté dénoncé un énorme scandale. C'est pas fini parce que les avocats de M. Lucano ont annoncé qu'ils feront appel du jugement, mais ce dernier reste assigné à résidence le temps du recours. Il l'était depuis qu'il avait été arrêté en 2018. Donc, c'est une histoire de fou, là, condamné pour avoir aidé des migrants à s'intégrer, à rester, même si c'était pas tout à fait dans les règles administratives, mais on s'attend que 13 ans de prison, c'est vraiment un geste politique, là, c'est clair. Là,
on a vu ça en France aussi, dans d'autres pays, là, le délit de solidarité. Mais au niveau d'un élu, c'était quand même assez rare. Là,
oui, oui. Quand t'es élu pendant 3 mandats, c'est parce que t'as peut-être un certain appui aussi. Là. Fait que, voilà pour des nouvelles d'Italie. Il y a plein d'autres choses, mais on en parlera une prochaine fois, Simon.
Merci, Mathieu. On te retrouve à la fin de l'émission pour l'agenda des
Exactement.
Athlètes. Ouais. J'en profite pour placer une autre petite brève européenne qui nous vient de Pivot, qui est un nouveau média, ben, on peut dire plutôt à gauche, fusion de Ricochet majeur et un autre anglophone, je pense. Bref, une nouvelle dont le titre est assez surprenant. L'armée canadienne participe à l'entraînement de l'extrême droite en Ukraine. Pas très propre, tout ça. On y apprend que ben, le laxisme des autorités ukrainiennes et internationales a permis à des membres du groupe ultranationaliste Centuria, de profiter du soutien militaire offert à l'Ukraine par le Canada et d'autres pays de l'OTAN. Centuria, c'est un groupe qui est maintenant directement implanté dans l'armée ukrainienne. Il y a des militaires ukrainiens qui sont souvent affichés publiquement comme membres de Centuria, à la fois sur les réseaux sociaux et en tenant des réunions, des activités à l'intérieur même des bâtiments gouvernementaux, à l'Académie militaire nationale qui, je présume, est à Kiev. Ils ont reçu des entraînements, des armes fournies par le Canada et ses alliés. L'objectif avoué de Centuria, c'est même dans leur statut officiel que je vais citer à l'instant, donc former une élite militaire qui atteindra les plus hauts rangs au sein de l'armée ukrainienne dans le but de devenir un noyau puissant capable d'exercer une influence significative au sein des forces armées. Mm-hmm. Donc, leurs objectifs sont ambitieux. Il y a des enquêtes qui ont été menées, surtout journalistiques, des rapports qui ont été produits qui font état de la situation et pour l'instant, il n'y a pas encore de correctifs qui ont été envisagés. On est toujours aux apatrides anonymes sur choc.ca. On va écouter la pièce Écoféministe. C'est le nom de la pièce. C'est pas une nouveauté. Ça date de 2020. C'est du groupe La Fièvre avec un point d'exclamation. C'est un duo pop, pop, en tout cas, vous jugerez vous-même, duo féminin et féministe montréalais qui se définit comme dark art pop et qui nous promet des frissons, des chaleurs et quelques rêves délirants selon leur propre description. C'est elles qui le disent. Donc, on écoute le duo La Fièvre avec la pièce Écoféministe. La Fièvre sur choc.ca dans un petit instant, suite et fin des actualités en immigration Canada, cette fois-ci, avec Marie-Ève.
Oui, elle, c'était pas mal sympathique, ces échos féminins. C'est La Fièvre, moi, j'ai bien aimé.
Oui, tu te rappelais, ça s'appelait La Fièvre. Ben, La Fièvre, c'est le nom du duo. Écho ouais. Féministe, c'est le nom de la toune. Donc, à suivre. Mathieu nous disait qu'il y a un duo avec Backswatch quelque part aussi.
Mm. Backwash.
Backswatch.
Backwash.
OK. Bon. Écrivez, en tout cas.
Ben, la rappeuse qui a gagné le prix Polaris en 2020.
Oui, je la connais aussi bien que toi.
Ben, tu prononces mal.
Bon. OK. Fait que Marie-Ève, je te vole un peu de temps avant que tu nous arrives avec les actualités fédérales. Un syndicat a déposé 1000 griefs sur des situations de racisme systémique contre le plus important CIUS de la province, celui du centre-sud de l'île de Montréal. 1000 griefs quand même. Donc, les personnes racisées, d'abord, sont sous-représentées dans les emplois les mieux payés et sur-représentées inversement dans les emplois les moins payants. C'est le syndicat qui l'affirme et en même temps exige que le CIUS tienne et fournisse des statistiques sur les personnes racisées par type d'emploi, ce qui permettrait d'avoir un meilleur portrait du racisme systémique et de comprendre pourquoi, d'apporter des correctifs. Autre phénomène qui fait l'objet de griefs, c'est des patients ou des résidents là, qui exprimeraient leur préférence quant à l'ethnicité ou la couleur de peau de leur préposé. Mmh. Et les directions d'établissement accepteraient d'accommoder les patients racistes. Donc, ça fait l'objet de griefs aussi. Marie-Ève, essaye d'accoter ça. T'as d'autres nouvelles sur des enjeux d'immigration au niveau plus fédéral cette fois-ci?
Ben oui. Ben écoutez, moi, je vais commencer par une bonne nouvelle en guise de pont, justement, vers le palier fédéral, puisque là, ça concerne un peu les deux paliers.
Okay.
Je voulais souligner enfin la fin de l'incertitude pour Firas Bouzgarou, ce travailleur tunisien francophone qui travaille au Québec depuis plusieurs années et qui était menacé de déportation. On peut dire que dans son cas, l'expression « l'avoir échappé belle » prend tout son sens, puisque la décision du nouveau ministre de l'Immigration, Sean Fraser, de ne pas déporter M. Bouzgarou, donc la décision est tombée alors que ce dernier se trouvait à l'aéroport Montréal-Trudeau pour sa déportation.
OK, c'était pas moins, il était muni moins une seconde.
Oui, 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 il a dû être pas mal stressé. Quelques jours avant, bon, l'Assemblée nationale avait adopté une motion de Québec solidaire qui réclamait une intervention rapide d'Ottawa. Mm-hmm. La ministre québécoise de l'immigration, Nadine Giraud, avait aussi contacté Sean Fraser pour régler ce dossier-là. Peut-être un petit récapitulatif, bref, de l'histoire de Firas Bouzgarou. Depuis plusieurs années, il se battait, en fait, avec la justice canadienne qui lui reprochait d'avoir contrevenu aux règles d'immigration en passant trop de temps en dehors du pays. Bon, lui, il était arrivé au Canada comme résident permanent en 2014, mais il était rapidement rentré en Tunisie en raison de la grossesse difficile de sa femme, qu'il voulait parrainer à distance. Et donc, quelques mois plus tard, leur fille, nouvellement née, a développé des complications et son beau-père, donc le père de son épouse, a contracté un cancer foudroyant et en est décédé. Donc, Firas Bouzgarou est resté au chevet de sa femme, avant de revenir au Canada en 2018 seulement. Trop tard, évidemment, selon les services de l'immigration qui ont délivré une mesure de renvoi, c'est que selon les règles en vigueur, un résident permanent doit être présent en sol canadien au moins 730 jours d'affilée, soit 2 ans. Pas nécessairement d'affilée, ouais, c'est ça. Soit
un total.
Un total, ouais, c'est ça. Soit 2 ans au cours des 5 années suivant la validation de son statut. Et bon, rappelez aussi que tous ces recours à M. Bouzgarou avaient été des échecs, ouais, c'est ça. Même sa demande humanitaire avait été rejetée. Un autre dossier un peu semblable, c'est celui d'une Ougandaise dont la demande de statut de réfugié a récemment été refusée. Jeanne, qui désire ne pas dévoiler son nom de famille, est arrivée à Hamilton, en Ontario, en 2017. Elle fuyait tout à la fois son pays en raison de l'homophobie qu'elle y subissait, mais elle fuyait aussi une relation abusive et une famille qui l'a renié en raison de son orientation sexuelle. En Ouganda, faut dire que les relations avec une personne du même sexe sont considérées, et je cite, « contre nature » et sont passibles de rien de moins que d'emprisonnement. Donc, depuis que le gouvernement, lui, a refusé sa, le statut de réfugié, Jeanne est donc sans papier, même si elle travaille, en fait, depuis son arrivée comme préposée au soutien à domicile, ce qu'elle a d'ailleurs continué à faire tout au long de la pandémie. Elle a même, pendant ce temps-là, aussi contracté elle-même la COVID-19. Donc, elle aurait bien voulu déposer sa candidature au programme de résidence permanente des travailleurs travailleuses essentielles ou de la santé du gouvernement Trudeau, sauf que ce programme-là ne s'applique pas aux personnes sans papier ou aux demandeurs, demandeuses de statut de réfugié. Et comme son numéro d'assurance sociale n'est plus valide, ben là, actuellement, elle peut plus travailler. Dans le cadre de revenir sur ce programme-là, dans le cadre de ce programme-là, il y a 20 000 places qui étaient réservées spécifiquement pour du personnel de santé. Sauf que là, au 31 octobre, les chiffres, c'est que seulement 5 466 personnes ont déposé leur candidature. Ça veut dire que le programme qui est censé expirer le 5 novembre, c'est-à-dire demain, compte encore plus de 14 000 places, tu sais, qui pourraient être comblées. Puis,
mais y a pas, on sait même pas s'il y a des demandes que, peut-être, qui n'ont pas été traitées ou ouvertes encore.
Ben, en tout cas, si je me fie au terme utilisé dans l'article de CBC, c'est bien 5 466 déposées demandes. Okay. C'est ce qui... Mais bon. Puis sinon, ben là, il y a l'autre programme qui était le fameux programme là, des anges gardiens qu'on appelait. Lui... Il aurait pu accepter sa candidature à Jeanne, sauf que parce que ça, les demandeurs de statut de réfugié pouvaient postuler, mais ce programme-là est fermé depuis le 31 août. Bref, il serait peut-être temps que le gouvernement élargisse les critères d'admissibilité de son autre programme au plus vite. Là.
Qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame, Jeanne? Elle n'a plus de recours?
D'ailleurs, non, Jeanne est porte-parole de la campagne du Migrant Rights Network.
Dont on a parlé il y a deux semaines.
Oui, qui ont fait une campagne de lettres, campagne de vidéos. Puis c'est une des porte-paroles, Jeanne, justement, que j'ai reconnue d'origine ougandaise.
Ben, c'est ça. Ben, la demande, finalement, c'est d'élargir les critères d'admissibilité puis de prolonger la date aussi. Là.
Oui. Donc,
peut-être de reconnaître le travail qui a été fait, même sans permis, mais qui est considéré comme du travail essentiel quand même.
Ah, mais souvent, ils ne rentrent pas des programmes parce qu'ils ne parlent pas les deux langues ou parce que leur statut n'est pas rendu à telle bonne étape. Bon, ça peut être assez complexe.
Ben, comme elle était en attente de sa décision, elle avait le droit de travailler parce qu'elle avait le droit de travailler pendant l'attente. C'est juste que là, depuis que la décision a été rendue et s'est fait refuser le statut, ben là, elle n'a plus de papier. Là,
OK.
Donc, voilà. Mais peut-être une dernière nouvelle qui est tombée là au début du mois d'octobre, si vous me donnez une petite minute, ce sera pas très long. Croyez-le ou non, le gouvernement fédéral va contester la contestation de l'entente sur les tiers pays sûrs.
Eh bien, quelle saga, ça finit jamais de finir, en tout cas.
Eh oui, il considère que la Cour suprême... La Cour suprême n'a pas à revoir la décision en appel qui avait validé la constitutionnalité de l'entente. Dans leur plaidoirie écrite, les avocats fédéraux soutiennent que la Cour d'appel fédérale a correctement interprété la loi, puis que ça, en laissant aucune marge là, à la Cour suprême pour considérer d'autres questions d'importance à clarifier ou à résoudre concernant cet accord-là entre Ottawa et Washington. Bon, vous le savez, les groupes de défense des réfugiés, eux, ils veulent que le plus haut tribunal examine cette entente-là pour des questions qui posent des questions fondamentales de droit constitutionnel concernant l'accès au recours en cas de violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est si la Cour suprême va accepter d'entendre cette contestation-là en dernier recours, mais c'est vraiment reparti pour un autre round là, de ce combat judiciaire, puis ça commence vraiment à ressembler à de l'acharnement là, de la part de... Ben, ça fait longtemps que ça ressemble à ça, là, mais... Ouais.
Ça fait passer aussi à l'histoire des enfants autochtones, la compensation aussi pour les services de la jeunesse. Là, ouais. Ça finit plus de finir. Puis c'est
oui,
quoi,
on conteste des contestations. Là, c'est un peu n'importe quoi. J'imagine notre nouveau ministre fédéral de l'immigration va prendre le dossier au sérieux. Est-ce que tu as le nom?
Sean Fraser.
Moi, je ne l'ai pas retenu encore parce que c'est tout frais.
Nouvelle-Écosse.
On vous fera peut-être un petit portrait de lui à la prochaine émission.
C'est fait d'armes, son CV qui doit être très joli. Écoutez, un un petit pont musical, encore une fois, pour un autre switch de personnel. On est toujours aux Atatrides. On revient avec Mathieu, nous fait de l'agenda. Mathieu, qu'est-ce qu'on a à l'agenda cette semaine?
Ben, pas beaucoup d'événements en personne, je dirais. En premier, je vous parle du Journal des Alternatives de l'organisme Alternative, qui produit des podcasts comme beaucoup de gens, mais ça a l'air intéressant, je suis allé faire un petit tour. C'est une série qui s'appelle Féministe Pluriel, un nouveau balado créé et animé en collectif qui aborde une diversité de récits, de savoirs et de solidarité autour des luttes, des actions et des approches féministes et intersectionnelles à travers des entrevues de fond avec différentes militantes. Donc, il y a déjà quelques épisodes sur le site. C'est journal.alternative.ca si vous voulez aller voir ça.
Parfait.
Le nouveau numéro de Camindo est maintenant disponible. C'est le journal du CEDAL, le Comité pour les droits humains en Amérique latine. Le nouveau numéro s'appelle « Femmes, pandémie et lutte pour le territoire ». Donc, des femmes défenseurs et protectrices de la vie, de l'eau, de la nature, des communautés et des territoires prennent la parole et racontent les multiples visages de leur lutte.
C'est Caminando.
Pardon.
Petit rectificatif.
Oui, bien sûr. On a le temps, ça a l'air aujourd'hui de faire les rectificatifs. Donc, on parle de féministes décoloniales, de résilience, de cosmovision, de souveraineté territoriale, de solidarité entre les peuples. Donc, ça a l'air vraiment le numéro intéressant du Caminando. Voilà.
C'est comme Backswatch, là, en tout cas.
Oui, Simon. Donc, sinon, un événement, ben, différents événements au Québec. C'est la COP26 actuellement. Il y a un 48 heures d'action pour la justice sociale et climatique un peu partout dans le monde. Donc, Québec, c'est les 5 et 6 novembre, donc demain, vendredi, et samedi, le 6. En Outaouais, il y a des manifs les deux jours, ben, des événements, la Naudière aussi. À Québec, c'est samedi après-midi qu'il y a une manif. Et à Montréal, c'est ce samedi à midi, au parc du Mont-Royal, devant la statue de Georges-Étienne Cartier, organisé par le réseau intersyndical pour le climat. Donc, c'est un regroupement de différents syndicats qui travaillent sur les enjeux d'environnement avec des groupes écolos. Donc, samedi 6 novembre à midi, au parc du Mont-Royal, pour les gens intéressés dans le cadre de 48 heures d'action pour la justice sociale et climatique, Simon.
C'est tout pour l'agenda?
Ben oui, voilà.
Bon, ben là, on viendra avec peut-être plus d'activités culturelles la prochaine fois. Nous, on va conclure l'émission dans une petite minute. Là, on est toujours aux Apatrides et on vous revient pour le mot de la fin, disons ça comme ça. C'est déjà la fin de l'émission des Apatrides anonymes du 4 novembre, le Squat novembre au soir de 2021. Mm-hmm. Donc avant de conclure et de passer en musique, des nouvelles de Bolsonaro, tiens, ça fait pas si longtemps.
Ça fait 2-3 jours.
Je pense qu'on en parle à chaque émission à peu
oui,
près.
Oui, c'est là. Ça fait 6 mois qu'il y a le hockey maintenant. Là.
Non, il n'y a plus son hockey, il avait subi une chirurgie, je pense. En tout cas, bref.
Bon, les potins.
Des potins, ben, en tout cas, non, mais c'est plus sérieux quand même, cette nouvelle. C'est des sénateurs brésiliens qui réclament son inculpation. Il y a une commission d'enquête sur la pandémie au Brésil qui a approuvé il y a quelques jours un rapport qui recommande l'inculpation de Jair Bolsonaro pour 9 motifs, dont crime contre l'humanité, prévarication, je connaissais pas ce mot-là, charlatanisme et incitation au crime pour ben, principalement avoir délibérément exposé les Brésiliens à une contamination de masse dans le cadre de la COVID. Le texte recommande aussi l'inculpation d'environ 80 personnes, dont plusieurs ministres, ex-ministres, compagnies, et les trois fils aînés de Bolsonaro qui sont tous des élus, je ne savais pas non plus. Le rapport va être transmis au parquet brésilien, qui est la seule autorité compétente pour inculper des personnes. Dans ce cas-ci, on juge une inculpation comme peu probable, puisque le procureur général du Brésil est un allié de longue date du président. Mais le crime contre l'humanité pourrait être jugé à la Cour pénale internationale de La Haye, et c'est vraiment une possibilité qui semble sérieuse. La Cour pénale, le CPI, a tout un dossier, ça a l'air, sur le Bolsonaro, qui sont juste prêts à déposer devant un tribunal. Bon, en attendant, ben, on doit vous quitter. On va souhaiter le meilleur.
Ah oui, hein?
Ben oui, déjà. On va se laisser en musique.
Là.
Monsieur a l'air surpris.
Non, mais je vais
faire une émission.
Je me demandais si le Brésil était membre et signataire du traité de Rome qui est avec la CPI. Je ne suis pas sûr de ça. Ça serait à vérifier.
À vérifier, effectivement. Ouais. Je sais que Bolsonaro, lui, prétend, ne pas, un peu comme Duterte, là, personnellement, ne pas reconnaître l'autorité de la Cour pénale. Mais pour ce qui est des statuts officiels, là où la.
À vérifier.
À vérifier.
Ouais.
Donc, on va se laisser en musique avec Low, groupe dit Slowcore de Duluth au Minnesota, qui vient de sortir son album Hey What. C'est dans le palmarès anglo de Choc, et on va entendre la pièce The Price You Pay dans un petit instant. Je vais d'abord remercier Marie-Ève et Mathieu, donc, qui ont couru entre le studio et la console tout au long de l'émission et nous ont présenté plein de contenus super intéressants. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci pour l'animation, Simon, et tout le contenu.
Ben, ça fait plaisir.
Et le choix musical et tout et tout.
Eh oui. Donc, beaucoup de contenu international et local cette semaine, cette fois-ci. Je vous laisse nos coordonnées à patrizanonyme@resist.ca, c'est notre courriel. On a une page FB. Site web...
Meta.
Ah, c'est vrai? Ben oui, ça va changer beaucoup de choses dans les fake news. Notre site web apatridesanonymes.info. Évidemment, on est sur choc.ca où ben, toutes nos émissions sont en rattrapage, en balado-diffusion. On va se retrouver dans deux semaines. Diffusion en direct des studios de Choc le jeudi 18 novembre à 18h30. Ce sera animé, je crois, par Marie-Ève.
Oui, nul autre que moi-même.
Nul autre que Marie-Ève. Ben, Marie-Ève, bye-bye. Mathieu, bye-bye. Ben, bonsoir tout le monde.
Ben, merci Simon. Bonsoir. Puis peut-être, si j'ai deux secondes.
Vas-y, vas-y.
Choc est en nomination pour le meilleur média numérique au GAMIC qui
oui,
a lieu.
Tu fais bien de le souligner.
Et le gala a lieu début décembre. Fait que je pense que le vote est encore vert. C'est un vote populaire. Donc si les gens veulent encourager Choc pour le GAMIC, gênez-vous pas. Allez trouver ça sur Internet.
GAMIC.ca, je pense.
Le coup de chasse trouve. GAMIC avec un Q.
Donc, merci. C'était les apatrides d'année, mais on se laisse avec le groupe Low, la pièce de Price You Pay. Bonne soirée, tout le monde.
Bye.
Into the price you pay to hear the morning come. Keep the ghost another day. I don't have to pause to feel the magic burn deep within my heart, beneath the surface of.